France Inter.
Figurez-vous que c'est la bande originale, oui, mais oui, j'y arrive, en tout cas, cette bande originale, avec Emma Beaujean, qui est là, avec Rebecca Balestra, avec Bruno Becky,
bonjour,
Guy Passureau, Daniel Morin, et nos invités pour la première fois, Nastia Goulet-Beva. Goulet-Beva. Ah, merci, Jean Dujardin.
Voilà. Il y a une enfant qui s'attrape
avec nous. Sans terre. La bande originale.
Je sais que vous allez avoir du mal à le croire, Nastia. Je me suis entraîné, je me suis dit, il faut pas que je me plante, il faut pas que.
Goulou-Beva.
Voilà, je vais le faire.
Tu peux le noter, Nagui.
Mais non, mais Goulou-Beva, on ne me rit.
Comprenez, Nagui.
Oh là là.
Je
fais... Sans rien.
On n'y prendra plus.
Je suis désolé, ça va être hyper long.
Pourquoi fait-il ce métier alors qu'il ne sait pas articuler? On ne le saura jamais.
Il y a 40 ans qu'on se pose la question.
Bienvenue, Jean, ça faisait longtemps. Vous, Nastia, ouais. C'est la première fois. Ravi de vous accueillir.
Non, je suis venue une fois la semaine dernière, mais pas avec vous.
Ah, voilà. Peut-être ça la différence. Avec Leïla qui n'a pas voulu revenir d'ailleurs en se disant. Mais on,
c'était Alix.
Alors, c'était pas cette émission, vous voulez dire, alors carrément.
Non. Ah oui, non, bah, je sais pas si c'était France ville, Inter, ici, mais. Bon.
Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu que je fasse toutes les émissions de France Inter. Je ne comprends pas, mais vous
la
avez.
La prudence, peut-être.
On va parler de ce sublime film, Les rayons et les ombres, de Xavier Giannoli, qui sort cette semaine. Il y a dans ce film ce côté, évidemment, toute cette période, cette histoire vraie. Alors moi, j'aimerais savoir, sur les histoires vraies au cinéma, quelles sont celles qui vous ont marqué dans l'histoire du cinéma, dans tous les films que vous avez pu voir? Est-ce qu'il y a des histoires vraies, des biopics qui vous ont marqué, qui vous ont plu avant que nous rentrions dans cette
Star Wars,
histoire? Oui, bien sûr, Star Wars. Emma, il y a un...
Alors, j'y repense. Non, mais elle est hyper vraie, sa question.
Est-ce que
t'es déjà allé au cinéma?
Est-ce que ça change? Non, est-ce que ça change quand tu vois qu'un film est une histoire vraie?
Ouais. Moi, c'est facile de me faire pleurer. Et après, en plus, quand on met les vraies images à la fin et tout machin dans les films, ça me fait partir.
Okay.
Mais du coup, j'y pense parce que récemment, je l'ai revu. Le biopic sur Aznavour, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les images d'archives, en fait. Et le début où ce petit garçon arménien et avec tout le peuple arménien fait proportionnellement la fête par rapport au drame de ce qui est en train de se passer partout sur leur terre, quoi.
Rôle voilà, sublimement interprété par Taharim.
Absolument.
Ok. Ouais, Rebecca, est-ce que le fait qu'un film soit une histoire vraie, on va partir là-dessus. Le fait que le film soit une histoire vraie te...
Mais moi, je crois toujours en la fiction. Donc pour moi, tout est vrai, tout ce que je vois. Mais
c'est beau, ça.
C'est beau. Hein, non, c'est vrai. Je pensais pas sortir un truc aussi intelligent et c'est fait. Voilà. Non, Titanic.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
On va genre le Titanic vrai, l'histoire, je ne sais pas.
Oh, mais
est-ce
si,
qu'il y avait de la place pour deux
sur ça? Ouais, okay,
d'accord. Il y avait de la place pour deux. Bruno Pecky.
Moi, j'ai la même chose que Rebecca par rapport à la fiction. Et même quand j'étais petit, je me souviens, je pensais que les acteurs mouraient quand je voyais à la télé, quoi. Et après, j'ai appris que non. Et à ce moment-là, je vois, c'est Hôtel Rwanda. Il y a un film qui s'appelle comme ça.
Ouais.
Et je le vois à ce moment-là et je sais que c'est inspiré du génocide. Et donc, et là, on me dit ah non, mais ça, en fait, c'est vraiment passé. Et je me souviens, c'est un peu marquant, premier film histoire vraie, enfin inspiré de faits réels, où je me dis waouh, c'est
de l'AF.
Moi, je dirais la première demi-heure d'Il faut sauver le soldat Ryan. En fait, je trouve que c'est le débarquement. Il a été filmé d'une manière tellement violente. La boucherie, ça m'a vraiment marqué. Donc, ouais, c'est pas une histoire précise, mais ça ressemblait, je pense, à ça.
De l'importance d'une histoire vraie au cinéma, Daniel Morin.
On va rester dans la bonne ambiance de la Deuxième Guerre mondiale, mais Music Box.
Ouais.
Un film formidable,
exact,
avec Jessica Lange et son père, est-ce qu'il était nazi ou pas?
Et alors, comment s'appelait ce film aussi où il y avait la maison, le petit jardin fleuri, juste à côté du...
la zone d'intérêt.
Ah, la zone d'intérêt.
Ouais. Ah, ouais, mais oui, j'aurais dû dire ça. Incroyable, ce film.
Totalement bouleversant. Tanguy, que l'histoire soit vraie,
oui, alors les Ewoks, l'histoire vraie de petites créatures comme ça qui vivaient dans la forêt, qui vraiment m'a touché. Et j'ai aimé Into the Wild, si vous vous souvenez de cette histoire-là, le monsieur qu'ils ont trouvé seul dans un bus abandonné en pleine campagne. Obligé de survivre.
Nastia, ça change quelque chose de quand on va au cinéma. Je ne parle pas de quand on est actrice comme vous, mais quand on va au cinéma, de voir un biopic ou une histoire vraie, ou de voir une pure fiction en disant qu'est-ce que c'est bien écrit quand même.
Ou de voir une pure fiction.
Ouais, qu'est-ce que vous préférez, de voir une histoire vraie ou de voir une pure fiction?
Ça dépend du film ou du documentaire ou du...
Est-ce que vous les regardez de la même manière quand vous voyez au début la petite phrase qui dit « ce film est inspiré d'une histoire vraie » ?
Bah non, parce que c'est vrai qu'on peut tout de suite se dire que ça peut nous arriver à nous quand c'est une histoire vraie. La fiction aussi, mais on y va quand c'est une histoire vraie avec l'idée que...
que c'est possible.
C'est arrivé.
Ouais, ouais. Il y a des histoires vraies qui sont encore plus dingues que certaines fictions. C'est-à-dire, on se dit, mais même ça, si on avait, si on l'avait inventé, c'était pas crédible. Et pourtant, c'est quand même arrivé. Jean Dujardin, en spectateur, hein, encore une fois, pas en tant qu'acteur, voir une histoire vraie au cinéma. C'est un autre état d'esprit, on est dans une autre humeur.
Oui, je suis un peu comme tous les spectateurs. Si en plus c'est vrai, évidemment, je pense que l'émotion est décuplée. C'est un genre que j'aime beaucoup, moi, le thriller historique. J'ai eu l'opportunité d'en faire avec J'accuse, même Novembre, par exemple, qui est notre récit national. Je peux vous dire que même sur un tournage...
Monuments Man aussi.
Monuments Man, mais ouais. Sur un tournage, quand vous vous souvenez du soir des attentats, je peux vous dire que quand vous tournez des séquences comme ça, c'est là que vous sentez que c'est dans votre chair. Quoi.
On ne sort pas indemne de ce genre
non,
de
non,
de
on ne joue pas du tout de la même manière. Non, il y a une responsabilité forcément.
C'est un peu comme Les Rayons et les Ombres. Ça m'a totalement bouleversé, ce film. Il est incroyable, sublimement interprété. Alors pardon, Nassia, je ne vous avais jamais vu au cinéma avant. Pour moi, vous avez été pour moi, et je ne suis pas critique cinéma, mais je me suis mis une gifle dans votre jeu, votre interprétation. Vous passez par tous les états. D'ailleurs, c'est ça qui est fort, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours aussi dans le temps et dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et la justesse de votre désarroi, ou de votre bonheur, ou de la manière dont vous rayonnez, pour faire résonner justement le titre de ce film, qui lui aussi est une histoire vraie, que Les Rayons et les Ombres est un titre véridique de Victor Hugo, je ne savais pas, et où on retrouve des résonances. Alors c'est plus fort encore que L'Ombre et la Lumière, Les Rayons et les Ombres.
Oui, c'est plein de choses, Les Rayons et les Ombres. C'est à la fois, si vraiment on va dans le manichéisme, c'est à la fois c'est lui l'ombre et elle la lumière, mais c'est aussi effectivement le faisceau lumineux de cette jeune fille, en fait, projetée sur le mur dans une époque absolument
jeune actrice de cinéma,
Corinne Lucher qui explose, oui, absolument. Et c'est ça pourrait être tout ça, les ombres et les lumières. Et puis c'est aussi notre pardon, je suppose, enfin tout ce qu'on est capable de faire.
Ou de et les questions
faire,
que l'on peut se poser en disant comment on aurait été
des collaborateurs zélés.
C'est ça, comment on aurait été dans cette situation.
Oui, c'est ça, c'est la question qu'on se pose, c'est comment cet homme de gauche, ce pacifiste convaincu, a pu glisser vers le compromis, vers la compromission et la trahison, comment il a pu se trahir.
Il y a une grosse histoire d'amitié aussi qui est à l'origine de ça.
Oui, c'est pour ça que le film était très intéressant, parce que c'est au-delà de l'histoire, le film aurait pu être, pour le coup, beaucoup plus sec, beaucoup plus clinique et politique. Le fait de passer par trois humains, c'est-à-dire passer par ce triangle amical et amoureux, presque, enfin émotionnel, en tout cas avec sa fille, c'est comme une tragédie antique, quoi. On a une très forte amitié dans un système absolument intolérable et qui va créer un dommage collatéral, elle.
Et c'est un papa fille. Extrêmement protecteur, c'est-à-dire que les cris de rage qu'il hurle dans le film sont essentiellement pour protéger sa fille.
Oui, et puis c'était très habile de la part de Xavier d'aller
Giannoli, le réalisateur du film,
d'aller chercher justement ce récit, son récit à elle, et puis il a rencontré Cédric Melletta, qui est le biographe de Jean Lucher, et puis d'entremêler en fait tous ses destins, et c'est très malin de passer par l'humain pour raconter cette zone un peu floue, cette zone d'ombre qu'on a entre 40 et 45, cette histoire de famille qu'on n'ose pas trop dévoiler.
C'est un plaisir d'actrice de passer par tous les états dans un seul film comme ça, d'être à la fois glamour, déchirée, heureuse, malheureuse, maltraitée, battue.
Très malade.
Franchement, vous passez très malade. Bah, la tuberculose est très présente dans le film aussi.
C'est une chance énorme pour moi d'avoir joué un rôle avec autant de choses à faire.
C'est difficile.
Oui, c'est difficile, mais c'est intéressant, c'est vraiment... Enfin, c'est chouette.
Ouais, c'est chouette.
J'ai été bien entourée et bien dirigée aussi.
Et c'est réussi, et ça sort demain au cinéma, ce film. Encore un dodo, et Les Rayons et les Ombres à voir absolument, surtout... surtout avec ce qui se passe dans la planète. Encore une fois, on n'est pas là pour tout ramener à des élections municipales ou à une actualité franco-française, mais c'est la nature humaine qui est intéressante à voir, la manière dont pour faire un clin d'œil à Jean-Jacques Goldman et à Né en 17 à Leidenstadt, toujours cette même question: question, c'est qu'est-ce que l'on aurait fait, nous,
question si on, qui est abordée à la fin du film.
Si on avait été à leur place, voilà, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, qu'est-ce qu'ils acceptaient, qu'est-ce qu'ils n'acceptaient pas. En effet, tout le monde n'a pas été de brillants résistants, ou en tout cas pas la même date aussi. Et de la même manière, tous les Allemands n'étaient pas non plus des nazis qui voulaient forcément une extermination. Il y a vraiment de tout, c'est absolument pas manichéen, c'est un film réussi sur la nature humaine, une très 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 belle œuvre qui sort demain au cinéma à voir absolument. Mais d'abord voici Hold de la fan de vous, Nassia et Jean.
Je suis fan de Jean du Jardin. Une fierté nationale, une icône, un destin. Un peu comme Nagui, mais vous faites plus d'1m20. Et comme vous êtes là, lui se prend pour un nain du jardin. Je suis fan de Nastia Golubeva. C'est la toute nouvelle étoile du monde du cinéma. Vous n'êtes pas que comédienne, une cascadeuse aussi. Sur le plateau de C'est à vous, tout le monde l'a appris. Et vous êtes ici pour les rayons et les ombres. Un film qui parle de l'histoire et d'un moment sombre. C'est l'occupation, le temps, des choix compliqués. Mais le film aurait plu à Tino Rossi ou Charles Trenet. Ouais.
Encore.
Oh, je suis fan de vous et de ce film chef d'œuvre qui parle d'une France où l'on devait avaler des couleuvres, où des femmes pour bouffer devaient se faire les poches et d'autres femmes pour bouffer devaient se faire des boches.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Je suis dans un état proche des collabos. J'ai le moral à zéro. Sauf quand il y a une fête à la Gestapo.
Quelle honte.
J'approche peu à peu du Nirvana. Pierre Laval compte sur moi. Je dénonce quelques voisins pour être sympa.
Mais s'il vous plaît, arrêtez de juger les gens qui savaient se débrouiller pendant la guerre. Ils étaient peut-être juste mieux organisés que les autres, que tous ces paresseux du maquis, là. D'ailleurs, on verra bien comment on va se comporter les uns et les autres à partir de l'année prochaine, y compris sur cette radio, après les élections de 2027.
Je suis dans un état proche des collabos, dans un an sur la radio. Bonjour aux militaires en entrant dans le studio. Oh, je suis dans un état proche de Pascal Pro. Ce sera lui à la BO. On sera tous partis, sauf Daniel Momo. Ah, je suis fan de vous, de ce film fort et beau. Et y a pas à dire, le sujet colle à la beau. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Hold Up sur scène à Paris au Folies Bergères le 1er avril et vendredi pour Opération Bretzel à Beaucourt.
Le film est essentiellement, on peut le dire quand même, sans vous vexer j'espère, Jean Dujardin, autour de l'histoire, puisque vous êtes la narratrice Nastia dans ce film, Nastia Golubeva, qui interprète donc l'histoire vraie de cette icône du cinéma. C'est une star, même pas une starlette, parce que c'est un peu péjoratif quand on dit starlette, c'est une véritable star du cinéma à ce moment-là.
Oui, c'est pas pareil d'être une star dans les années 40 qu'une star d'aujourd'hui.
Ouais.
Il y en avait beaucoup moins avant. Et on était vraiment, enfin les femmes à ce moment-là, ou les hommes étaient des exemples pour les autres, et on les aimait très fort, et on les détestait très fort. Et puis son idole à elle, c'était Greta Garbo. Elle a grandi avec elle sur les grands écrans.
Et elle limite un peu devant sa glace aussi.
Voilà.
Elle a plein de photos, ouais. et elle cherchait même la manière de fumer des cigarettes, ouais, pour lui ressembler à ces stars du cinéma américain. Histoire vraie, comment vous avez appréhendé le rôle et votre personnage?
Quand j'ai eu le rôle, je me suis dit que c'est un très beau rôle et c'est une histoire vraie, donc je pouvais pas rater.
Donc on se documente dans ces cas-là, on s'interroge, on essaie de se mettre carrément dans la peau de cette fille en se disant comment j'aurais réagi vis-à-vis de mon père, vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis du métier. Même il y a une espèce de mise en abîme en faisant des essais pour avoir un premier rôle dans un film réalisé par un Ukrainien.
Léonid Mogui. Mais avant d'aller vers ça, il y avait le chemin d'essayer de de la voir et de la saisir, de saisir son, pas son énergie, mais son âme ou son quelque chose. Et quand, donc j'ai regardé les films dans lesquels elle a joué, et il y avait une scène dont je parle à chaque fois, mais c'est ma scène préférée, dans Prison sans barreaux. Donc elle est enfermée dans cette prison pour jeune fille innocemment, parce qu'elle a été agressée par son père et qu'elle s'est défendue, et alors sa mère l'a mise là en lui disant « tais-toi ». Et il y a une nouvelle directrice qui arrive, qui lui offre la liberté pour une journée. Et donc c'est Corinne dans le couloir vers la sortie, avec la caméra de face, et elle court vers la liberté, tout son visage s'illumine, et je trouve que dans ce plan, il y a tout. Et alors, à partir de là, quand on commence à...
C'est-à-dire que c'est un travelling arrière avec la lumière vers laquelle elle court et qui l'éclaire et son visage s'illumine de plus en plus.
Son visage s'ouvre.
Ok.
Et je la trouve, elle est magique dans cette scène. Et là, c'est vraiment une actrice, une vraie.
Dès le début du film, c'est comme ça que ça s'ouvre, parce qu'on sait que c'est une histoire vraie, mais on ne sait pas très bien dans quoi on débarque. Et sincèrement, je ne connaissais ni l'histoire de Corinne, ni l'histoire de Jean, le père, qui étaient tous les deux des figures très fortes dans cette période de l'entre-deux-guerres. Parce que là aussi, on a des allers-retours en fonction de la situation. On est après-guerre, avec une agression qui est faite sur cette ancienne star qui se cache, qui porte un foulard, qui porte des lunettes noires, qui a un enfant seul dans un parc. J'ai cru reconnaître le parc Monceau. Peut-être me tromper sur le lieu de tournage, mais enfin, peu importe. Elle est agressée. On ne sait pas pourquoi on lui en veut, pourquoi on s'en prend à elle. Et au fur et à mesure, on comprend qui est le père. Et le père qui est un pacifiste, qui est pour... on est après la première guerre.
Qui est le père de la jeune fille, pas de l'enfant.
Oui, c'est ça.
Ouais. Oui, pardon. Ouais. Le père de la jeune fille, le père de Corinne, qui est journaliste, qui devient chef du syndicat de la presse, qui est dans la bien-pensance, qui est aussi la référence de « on est pour la paix, tendons la main aux Allemands en l'entre-deux-guerres, évitons », puisque la phrase est dite dans la bande-annonce, je ne spoil rien, « je ne veux pas que ma fille revive une guerre
qu'on a vécu.
Telle qu'on l'a vécue
ouais, ». Bien sûr, oui, on est dans les années 20, dans cette projection de la nouvelle Europe. Effectivement, ces deux personnages, Otto Abetz, qui était très amis, Otto Abetz qui était francophone, et se rencontraient souvent, effectivement, lors de réunions, et allaient prêcher cette parole-là, cette paix, en tout cas.
Et ils montent un journal, tous les deux, l'Allemand qui aime la France et qui est très francophile.
Notre temps, voilà.
Ils montent un journal tous les deux, ils écrivent des papiers pour que justement l'amitié franco-allemande soit plus forte que les tensions, la guerre.
Exactement.
Et puis même quand il y a des rumeurs d'une éventuelle élection d'un petit chancelier en Allemagne, on se dit non mais jamais l'extrême droite ne viendra au pouvoir. C'est impossible que l'extrême droite arrive au pouvoir.
Ah oui, à ce moment-là, on est très très loin de tout ça. Ouais. Mais même dans le film, il y a des choses qui sont absolument dingues. C'est-à-dire qu'on voit que Hitler a fait la couverture du Time au moins 5 fois, vous imaginez. C'est absolument dingue.
Mais ce qui est dingue, c'est, pardon, l'écho, même s'il faut se détacher quand même de l'actualité dans le monde entier, mais l'écho que donnent toutes ces situations par rapport au populisme qui l'emporte dans plein de pays, peut pas laisser indifférent. Pardon, je sais que Xavier Jeannelli, dans plein d'interviews, dit non, mais moi je n'ai pas fait le film pour parler de l'actualité en France, mais c'est impossible de...
Mais les gens feront sûrement le transfert, ils iront faire leurs courses, ils iront voir effectivement tout ça. Non mais vous savez très bien que si je m'allonge là dans ce que vous me dites.
Non, mais je ne parle pas de vous allonger.
Dans deux secondes, on va dire, dis donc, ferme ta gueule, toi t'es un acteur et t'as pas à être militant. Je ne suis pas militant. Ce que je veux dire, c'est que ce film-là raconte cette période-là. Il y a des films pour ça. Il y a des films qui éclairent aussi les gens. Parfois, le cinéma peut aussi servir à ça.
Et cet éclairage sert à quoi ?
À bouger, faire bouger les lignes, et peut-être que c'est un film qui raconte hier et qui raconte sûrement aujourd'hui, et qui peut aussi nous dire, venez, on recrée de la nuance et de la tempérance. Parce qu'on sait, en fait, je veux dire, on vilipend la collaboration, et évidemment à juste titre, mais je veux dire, la dénonciation, on est en plein dedans. Donc, une fois de plus, le film pourra aussi... est comme une ombre projetée en 2026. Mais il vaut mieux faire des films que le dire. Vaut mieux faire des films.
Et le fait que ça soit vrai, c'est intemporel, et ça prouve d'ailleurs que quel que soit le moment, quelle que soit l'époque, la nature humaine est faite comme ça. C'est-à-dire que...
Les ombres et les lumières, voilà. Effectivement, on est comme ça. C'est ça qui était intéressant d'ailleurs dans ce projet-là, c'est le paradoxe de cet homme. C'est comment on peut avoir cette bonne parole et comment on peut totalement se laisser corrompre, se laisser trahir par intérêt. Parce que il y a toute cette... On parle de la brutalité dans les films, la brutalité évidemment du nazisme, et bien sûr, mais mais il y avait une brutalité qui était tout aussi sournoise dans ces ambassades, où on allait chercher finalement à décaler l'opinion, on allait chercher des leaders d'opinion. Otto Abetz se servait beaucoup d'ailleurs de Jean Luchaire pour ça. Il savait que c'était un homme qui avait entre gens, il savait qu'il avait, c'était presque un influenceur, un personnage très moderne.
Il avait un réseau incarné d'adresses, comme dans cette ambassade, l'avait aussi avec les actrices.
Dans cette ambassade de Lille, vous avez eu des journalistes, vous avez eu des artistes, vous avez eu
des écrivains,
énormément de gens.
Des Céline, des Guitry.
Des Guitry qui venaient chercher
noms qui sont cités,
leurs petits arrangements et qui venaient faire leurs courses.
Mais les moments de l'histoire qui sont évoqués et qu'on a peut-être tous en tête, comme les cendres de Napoléon qui ont été rapatriées en France... par la volonté
de l'Aiglon.
Le cadeau d'Hitler.
C'était un cadeau d'Hitler. Ouais. Et Otto voulait vraiment faire la photo Pétain-Hitler.
Oui, bien sûr. C'est une manœuvre. C'est une façon aussi d'endormir.
De communiquer.
Communiquer et puis d'endormir le peuple aussi. C'est ce qu'on disait. 40 n'est pas 43. En 40, les gens sont transis de peur, regardent cette armée rentrer en ville. En 43, les yeux se sont relevés, les expositions, le cinéma, les choses reprennent. Je ne dis pas que tout le monde a collaboré, bien sûr. Il y a eu, évidemment, dès la première heure, des résistants. Mais il y a eu aussi des gens qui cherchaient leur chemin.
Ouais, et qui pensaient plus peut-être à leur propre peau et en disant comment je vais m'en sortir plutôt qu'à penser à sauver la patrie en disant.
C'est ce que dit tout le film. Oui, voilà.
C'est la dimension humaine slash la dimension mondiale et la situation dans laquelle
il y a toute cette situation où on est dans une espèce de pente un petit peu enveloppante et qui peut brouiller beaucoup de pistes. C'est très très confortable. On essaye de s'auto-persuader que
Là, on parle aussi d'une certaine classe sociale.
Oui,
on est une grande mondanité. On est vraiment dans des guerres de petits fours, de salons. C'est là que ça se passe.
Ouais, on est dans les magouilles aussi et dans le comment je vais faire du blé aussi sur la situation qui se passe. Parce qu'il y a le marché noir.
Mais je suppose que cette élite-là, à l'époque, en 40, quand les Allemands arrivent, le seul moyen de s'adapter à ça, c'est de collaborer. Et alors, ils s'allongent pour le coup immédiatement, oui.
Et puis, il y a aussi toute le lâcher-prise que l'on peut peut-être comprendre par rapport à la tension politique et à la situation de guerre, comme une espèce de lâcher prise sur la sexualité. Alors on peut voir ça comme quelque chose de très dépravé, de très libre. Je ne sais pas trop quel était ce moment-là par rapport aux bouges, aux mœurs, aux tolérances.
Il ne fait pas semblant, personne ne
comprend. Non, mais je sais pas. À ce moment-là, on a l'impression que c'était c'était une gigantesque partouze.
Il paraîtrait que même dans l'histoire, si on remonte un peu plus loin, je crois que même à l'époque de la terreur, il y avait des liesses amoureuses, enfin on va dire partout.
comme un contre-pied par rapport à...
Oui, parce qu'il y a trop de peur, il y a trop d'angoisse, et que peut-être il faut recréer du lien, il faut absolument remettre un peu d'amour dans un...
Mais alors justement, Corinne, votre personnage a envie de faire l'amour, par contre elle n'a pas envie de tomber amoureuse. C'est l'une des scènes du film.
La grande phrase de Xavier, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'il pense que Corinne n'a jamais été amoureuse. Ouais, réellement tombée amoureuse.
Elle s'interdit en tout cas de l'être à un moment. Elle ne veut pas entendre que quelqu'un soit amoureux d'elle.
Je pense que son amour avec son père, là, quand même, il l'a protégée, mais il l'a vraiment détruite aussi. Et de partir, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, de partir de la fille et de leur lien, il y a aussi dans la décadence du personnage du père... très protecteur au début avec elle, et puis en fait, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a emmené là-dedans, et c'est de sa faute.
Et puis elle non plus ne savait pas finalement tout ce que lui savait peut-être. Elle écoutait ce que son père lui disait de faire. Elle pourra peut-être plus tard lui reprocher en disant mais tout ce qui nous arrive là, c'est peut-être de ta faute. On va pas dévoiler tout ce qui se passe, même si c'est une histoire vraie. Mais en tout cas, il y a une sorte d'électricité qui n'enlève rien à l'amour, évidemment, et qu'il y avait entre les deux. Mais il y a cette tension, et on a beau connaître l'histoire, on a beau savoir ce qui va se passer, on a beau savoir comment on va se sortir de cette seconde guerre, parce qu'on dit seconde, parce que si on dit deuxième, ça veut dire qu'il y en aura une troisième, donc de cette seconde guerre mondiale, on sait que ça va mal se passer pour eux, parce qu'il y a cette espèce de ces condamnations qui vont arriver, et d'ailleurs on sait que le père est mort assez rapidement, puisque tout est un flashback. Ensuite on sait qu'il est exécuté, qu'elle vit avec ce deuil.
Oui, il n'y a pas de... Comment dire, de...
Suspense là-dessus.
Non, il y a plus
prise d'otage morale
non.
Ou
non. Plus sur le parcours de Corinne.
Oui, sur comment... elle, c'est plus intéressant. Voilà. Une fois de plus, on le redit parce qu'on a l'impression qu'on fait la part belle aux collabos. Mmh. Évidemment, comprendre n'est pas excuser.
Mmh. Ouais.
C'est ça l'intérêt.
Et d'ailleurs, ce qui est fort dans votre jeu à haute, alors pardon, je vais quand même arrêter de dire Otto et citer
Auguste Dill.
Auguste Dill.
Ouais.
Ce qui est extrêmement fort dans votre jeu à tous les deux, c'est la manière d'être dans plein de situations. Mais avec une espèce de double regard dans votre jeu.
Oui, parce que ça évolue.
Ouais.
C'est une amitié qui évolue. Et on voit bien, effectivement, à quel point il commence à être... On ne sait pas qui manipule qui. On en sait un petit peu plus
on
quand
sait
même.
Pas, on ne sait pas qui est gêné par la situation ouais. dans laquelle ils vivent. Ils se retrouvent tous les deux dans des salles où se disent des choses. Et il y a ce que l'on entend, il y a ce que l'on voit et ce qu'ils mmh. ressentent. Et on a...
Et leurs intérêts.
Ah ouais,
mais elle est sincère, je pense, cette amitié, jusqu'au bout, même si elle évolue, si elle est tordue par le contexte.
Ouais.
Je pense qu'elle est très, très sincère.
Possiblement, mmh. oui.
Et cet Allemand qui était donc journaliste à la base francophile et qui est devenu ambassadeur, c'est une histoire vraie aussi, a sauvé Paris qui aurait pu être totalement...
qui devait détruite. Être détruite.
Ouais.
Oui, et en même temps, il est quand même parti pris, je veux dire, sur les rafles.
Absolument.
On peut
absolument.
Pas, c'est compliqué.
Non, mais je veux pas dire qu'il est
mais
formidable.
C'est vrai que c'est un personnage assez étonnant. Il avait épousé une Française, je crois même que un de ses collaborateurs avait épousé une Américaine. Il roulait en voiture américaine. Enfin, c'est très étrange, ce personnage. C'est pour ça que les Goebbels détestaient, par exemple, Otto Abetz. Il y avait une hiérarchie aussi là-dedans. C'est très étrange, ces liens qu'ils avaient les uns aux autres.
Le film est une réussite de... Bah justement, on parle d'ombre et de lumière dans le titre avec les rayons et les ombres. La lumière est formidable, la réalisation, le jeu, ça joue tellement bien. Cette histoire est vraie, elle est bouleversante. C'est intelligent parce que... En plus de nous apprendre sur l'histoire, ça va vous apprendre sur vous-même. On peut pas voir ce film sans se projeter, sans mauvais jeu de mots, sur l'une ou l'autre, sur telle ou telle situation, en se disant qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Ça donne à réfléchir.
Et c'est vrai que, pardon, ils vont découvrir une actrice.
On est d'accord.
Un visage, parce qu'elle est le visage du film. Elle a quelque chose d'ancien, même d'assez, j'allais dire, j'ose...
Intemporel.
Mythologique.
Ouais.
Je trouve qu'elle a... Non mais, je le dis, je fais comme si t'étais pas là. Mais,
vous pouvez sortir 5 minutes.
Nastia Golubeva à retenir. Formidable actrice aux côtés de Jean Dujardin. Et les deux sont bouleversants. Tout autant que Auguste Dill, Vincent génial, Colombe, André Marcon aussi, qui joue votre papa.
Ouais.
Formidable acteur. Qui, pour l'anecdote, est en train...
Plein de rôles absolument dément.
André Marcon, qui là en ce moment joue Ubu Roy en faisant un écho à la manière dont Trump prend le pouvoir et manipule aussi d'une manière ubuesque tout ce qui se passe dans le monde. C'est là où l'art aussi peut avoir beaucoup d'intérêt à comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Maria Cavalier-Bazan, Anna Prochniak et Jean-Pierre Orchol, entre autres, donc dans ce film signé et réussi par Xavier Giannoli. Voici Monsieur Bruno Pecchi.
Voilà. Allez.
Vous n'auriez pas fait un film comme ça, vous?
Ach nein, Herr Nagy, so hätte ich den Film nicht gemacht.
Non.
Eh oui. À chaque fois qu'on va parler d'un film sur la Deuxième Guerre mondiale, je vais commencer ma chronique comme ça, mais heureusement, comme le cinéma français n'abuse pas de ce thème, ce sera que 15 à 20 fois par an. Ah, je suis mauvaise langue en plus, hein, parce que votre film, Jean Dujardin et Nastia Golubeva, est vraiment original car il pose un regard assez inédit sur cette période sans mettre aucun sujet sous le tapis. Alors c'est intéressant parce que ça sort de l'image monochrome que l'on a des collabos, mais moi j'aime pas ça. Non. Parce que je suis suisse. On n'est pas toujours super à l'aise avec cette période. En fait. C'est simple, pour pas en parler, on a carrément inventé une manière différente de dire certaines dizaines.
C'est vrai ?
En fait, on se focalise sur 70 et 90 afin de ne jamais parler de 40. Ah mais vraiment, on compte les dizaines différemment en Suisse. 10, 20, 30, 50, 60 et une petite ellipse, voilà. Après, attention, en Suisse, je tiens à préciser qu'on n'a jamais eu de collabos, nous. Comme on n'a jamais eu de résistants non plus, mais pas la peine de le préciser. C'est pas de notre faute, hein. La guerre était trop courte. Voilà, on n'a pas eu le temps de s'organiser. Quoi. 6 ans en année suisse, c'est moins d'une année réelle. C'est comme avec les chiens. Voilà. C'était à l'ordre du jour de l'AG de la PPE nationale de 1945, mais oups, la guerre s'est terminée avant. Et donc, logiquement, on n'a pas de film sur ce sujet. Bon, on a aussi très peu de films sur les autres sujets. Mais de nouveau, c'est lié à notre lenteur. Hein. Faut savoir, Jean et Nastia, qu'en Suisse, votre film de 3h19 est classé en tant que court-métrage. À la fin de la projection, les journalistes suisses ont dit « Mais la bande-annonce est super, quand est-ce qu'on va pouvoir voir le film ?» Et alors, je sais que vous venez venu pour de la promo et que dire que votre film dure 3h19, c'est peut-être un but contre son camp. D'ailleurs, j'ai compté 3h19, ça représente... 1h40. Oui, ressenti 1h40, parce que 3h19, ça représente 2 matchs de foot, ou 2 mauvais films français... ou 796 TikTok, ou 4 voilà. questions de Nagui. Donc, bon, il faut dire que le sujet demandait du temps et beaucoup de travail. Hein, 7 ans de documentation avec des milliers de pages de livres d'histoire, des dizaines de films visionnés et un travail phénoménal sur le plateau avec les décors, costumes et maquillages. Tout ce travail pour que les gens entendent parler du film grâce à la chute de Nastia Golubeva dans C'est à vous, quoi. Franchement, bravo, c'est devenu viral. Hein. Si la prod avait su avant, ils auraient pu économiser quelques millions de budget marketing. Non, pour revenir au film, je dois avouer que j'ai été troublé, déstabilisé, tambouriné, comme dirait R. Morin, parce que les soirées Sex, Drugs and Richard Wagner, entre nazis et collabos, bah je sais pas vous, hein, mais perso, je suis pas resté insensible, voilà. Ça m'a même rendu nostalgique de la dernière fête de fin de saison que Nagui avait organisée. Par contre, tout le reste, je suis bien content qu'il y ait eu du changement. Hein. Juste avant la guerre, les personnages parlent du danger du parti nazi et se rassurent en se disant qu'un parti d'extrême droite qui a 30% d'électeurs ne va rien faire basculer. Heureusement, quasiment 100 ans plus tard, tout a changé. Par rapport au personnage de Jean Luchaire, j'ai lu, Jean, que vous aviez hésité à accepter le rôle que vous proposait Xavier Giannoli. Et ça vous arrive pas souvent, car vous avez déclaré « La dernière fois que j'ai hésité, c'était pour The Artist ». Et bah tout ce qu'on peut dire, c'est que vous avez du flair, Jean. Un peu comme le personnage que vous incarnez, Jean Luchaire, qui s'est dit « Ce gouvernement pétain, il est fait pour durer, je vais les soutenir à fond ». Mais au moins maintenant, on sait. Hein. Pour savoir si un scénario est bon ou pas, très simple, envoyez-le à Jean Dujardin. Et s'il hésite, c'est que c'est un chef-d'œuvre.
Bruno Pecky sur scène à Paris, c'est au Point Virgule, samedi prochain, 4 dodo à 21h15.
Oui, 4 dodo, merci.
Nastia Golubeva, c'est votre premier grand rôle au cinéma qui repose beaucoup sur vos épaules. En plus, vous jouez Corinne Luchaire, j'ai envie de dire, sur un spectre quoi, de pratiquement 10-12 ans.
11 ans ?
Ouais, c'est ça.
De ses 17 à 28.
Et ça, est-ce que ça vous a fait peur d'être la narratrice, de tout porter sur vos épaules, ou alors vous vous dites c'est la chance de ma vie, je vais le bosser à fond pour le réussir le mieux possible.
Les deux, j'étais terrifiée évidemment.
C'est vrai.
Bah c'est énorme. Déjà le sujet était énorme, et moi j'y connaissais rien. Enfin, du côté des collaborateurs, je connaissais rien.
Comme beaucoup de personnes, hein, faut pas dire je ne connaissais rien. Je pense que beaucoup de personnes vont apprendre énormément de
même
choses.
Même la période est
grâce au film,
ouais,
évidemment.
Ouais, ouais.
Évidemment. Donc là, de ce côté-là, c'est normal. Mais pour une actrice, alors quelle a été la scène la plus difficile à jouer? C'est de jouer les stars de ces années 30, de ces années 40. C'est de jouer les scènes au contraire de désarroi, de tristesse. Quelle a été pour vous la difficulté, s'il y en a une d'ailleurs?
Bah, j'ai beaucoup travaillé sur le côté glamour, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je ne marchais pas du tout avec des talons, déjà, et des robes cintrées.
Okay.
Maintenant, j'ai un peu évolué, depuis le rôle. Mais oui, j'ai été vraiment accompagnée par l'équipe costume, Pascaline, Ursula et toute l'équipe qui était vraiment une famille. Qui m'ont suivie en amont.
Super, la reconstitution est tellement bien réussie. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les décors, ça, j'imagine que ça aide déjà de rentrer dans le personnage en se retrouvant coiffé, maquillé, habillé.
Bien sûr.
Quoi, c'est ça.
Oui, ça change tout.
C'est le déguisement qui fait le personnage.
Je me regardais, je me reconnaissais pas.
La voix, vous avez changé quelque chose, parce que la véritable voix de Corinne Luchaire est loin de la vôtre.
Elle était nasillarde, la voix de Corinne Luchaire, mais peut-être aussi c'était à cause des vieux enregistrements qui rendaient les voix...
Qui traitaient la voix différemment.
Mais... Oui.
Pas de difficulté particulière.
Non, enfin c'était amusant à travailler.
Okay. Il y a eu beaucoup de lectures. Comment vous avez travaillé avec Jean Dujardin?
Non, il n'y a pas eu vraiment de lecture.
C'est directement sur le plateau que vous êtes retrouvés?
Oui, mais enfin j'avais beaucoup de discussions en amont avec Xavier. On se voyait, on parlait pendant des journées entières. Il me disait, s'il y a une scène qui te fait peur, dis-moi, on feuilletait. Et il me disait beaucoup, ce film, on cherche. Le but n'est pas de faire un bon film, le but est de faire ce film. Et j'ai trouvé ça bien de dire ça.
Ça détend. Ouais. Ouais. Pour vous, Jean, il y a eu une difficulté particulière. Vous avez tellement joué de personnages différents, de comédies, de drames, de films qui reposaient totalement sur vos épaules. C'est un tout petit peu moins le cas là, même si vous êtes très présent, évidemment, ayant le rôle principal, avec celui d'Auguste Dill. Il faut que ça rentre dans la tête. Mais il y a eu une difficulté particulière. Là aussi, vous êtes documenté. documenter sur Jean Luchaire, sur le vrai, pour être au plus proche de, du personnage.
Comme Ninastia, effectivement, et c'est ce que disait Xavier, il disait tout est en mouvement. Donc du début jusqu'à la fin, on se posera toujours les questions. On ira toujours rechercher. Il faut qu'on soit bien sûr de notre coup. Il ne faut pas qu'on dise de bêtises. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Moi, j'ai rencontré donc Cédric Melletta, le biographe de Jean Luchaire. J'ai rencontré des historiens. Il m'en a parlé il y a 7 ans, en fait, de ce projet. Ça fait 7 ans.
Ah ouais, vraiment?
Oui, oui, ça fait 7 ans. C'était même avant l'Illusion perdue, c'était même avant sa série d'Argent et de sang. Donc je peux vous dire, quand il s'y met, quand il travaille, c'est pas rien.
Il lâche rien, et c'est vraiment 7 ans de réflexion.
Sans c'est 7 ans de réflexion, j'ai essayé de trouver l'entrée sur ce personnage. C'est vrai que, un peu comme The Artist, on se dit, je ne sais pas, moi, faire un film muet noir et blanc, j'ai les mains dans le dos, quoi. Comment je vais faire un truc comme ça? Alors il faut se rencarder, il faut aller à la cinémathèque, il faut aller voir des choses. De la même manière, là, j'ai lu, relu, et j'ai essayé de trouver une fenêtre, une entrée, et je crois que je suis rentré par une émotion, par la maladie, parce que c'est un film malade, en fait, c'est une époque malade.
Il est atteint de la tuberculose.
Oui, atteint par la tuberculose, et effectivement, le film ouvre d'ailleurs sur ses crachats, ouvre sur cette époque qui tousse. Et je me suis dit
sur ces manières de soigner totalement dingo. Quoi.
Ah, on allait au sanatorium. Ah. C'était absolument monstrueux. Enfin, à l'époque, il y a pas d'antibiotiques, on en meurt.
La scène de la piqûre entre les côtes là.
On en meurt à l'époque. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une image là où je le vois tousser sur l'image d'un marche d'un cabaret dans une lumière rouge.
Ouais, il crache son sang.
C'est peut-être là que je peux éventuellement rentrer. Ça veut pas dire que je l'excuse, mais je me dis, quand on sait qu'on est malade et quand on vous donne, on sait que l'issue finalement elle est assez proche. Qu'est-ce que ça change dans votre façon de voir la vie?
Il n'y a plus rien à perdre.
Peut-être qu'à ce moment-là, il est mal tombé, là, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il s'est largement installé dans cette collaboration.
Puis c'est dit dans le film. En plus, ça donne, on a le goût du sang dans la bouche.
On a le goût du sang dans la bouche.
C'est l'époque.
Ouais, c'est l'époque aussi. C'est ce qu'il dit. Je serais peut-être mort avant qu'on me juge. Absolument.
Les rayons et les ondes, c'est au cinéma demain et c'est une réussite. Voici Rebecca Balestra. Voilà.
Bonjour. Ben quoi? Vous me reconnaissez plus tellement j'ai la classe? C'est moi, Quasimodo. J'ai gagné à la machine à sous, j'ai eu les 3 cloches. Ah, la vie, elle est ding-dong. Dire qu'avant, je faisais la manche dans la poche de Nagui. Et maintenant, je suis comme lui, un gueux enrichi. Et dorénavant, la BO, c'est plus moi qui vous donne l'heure. C'est ma Rolex. Il est 11h sur ma montre en or, mon Daniel mort. Non, allez, regarde pas ça, Daniel. Compare pas nos poignets, tu vas chialer. Ce serait comme de comparer nos verges. J'ai une Daytona, t'as une flic-flac modèle enfant. Pauvre type. Ben ouais, maintenant que je suis riche et célèbre, je dois faire attention à comment je présente. Je fais de la gonflette pour ma bosse. Et surtout, j'ai trouvé un remède contre le pourrissement. La semence de saumon. C'est les jours des vedettes. Sauf qu'au du saumon, dans la Seine, il n'y en a pas. J'ai trouvé qu'un gros rat, mais je pense que l'effet est le même. Hein. Allez, rate ta couille. Eh, hey, vide-moi tes sacs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as le trac? Tu veux un coup de main? Pense au reflux des égouts, mon raton. Eh, hey, pense à une belle ordure. Pense à Daniel. Ah, du premier coup. Ah, ça goûte le pu, cette affaire-là. Ah, merde. Ah, c'était un furoncle. Ah, si j'avais su, je l'aurais sucé, j'adore ça.
Oh non.
Quoi? Vous croyez peut-être que parce que j'ai le prestige, ça me rendrait chicot, ça? Hein? Ben ouais, j'ai de l'or, mais je garde mon âme de clodo, ouais. Pareil pour toi, messire du jardin, t'as un Oscar, mais tu restes français. Hein? Après le pécule, je dois dire, t'es mieux quand t'en as pas. Avant, je vivais dans ma soupente, je me servais dans les caisses de la populace en bossant pour Inter, bon. Et maintenant, j'ai du flouze, alors je dors plus. Je pense à mes écus, à mes bitcons. Ah, putain! Ah, ça y est! Non, j'ai l'angoisse. Est-ce qu'il me monte au nez? Ah, faut que je me calme avec ma violette. Elle est où, ma violette? Ah, putain, ma violette. Ah, 1000 balles suisses, ça calme tout de suite. Et c'est le plus grand bifton du monde, hein. Tiens, Emmeralda, tu passeras dans ma suite après. Ah, t'as une belle charpente, je te mettrai bien un coup de poutre. Non, mais voyez, depuis que j'ai du pognon, j'ai plus de manières. L'argent, ça rend con, pas vrai, Péki? Je sais pas pourquoi je te demande ça, t'es le seul pauvre en Suisse. Non, mais c'est vrai, avant j'étais peinard. Entre mes verres à bois et mes termites, je lorgnais Paris d'un seul œil depuis le vitrail. Mais maintenant que je suis dedans, ça me dégoûte. Comme Oldolaf, une fois qu'il a tiré son coup. Allez, je retourne au casino, sonner la machine, je vais me les faire, ces cloches. Et je parle pas que de vous autres autour de la table.
Merci. Rebecca Balestra.
Si vous avez un kawaii, vous pouvez aller la voir sur scène aux Journées Suisses du Théâtre pour son spectacle Jacqueline Maillan.
Les rayons et les ombres, qui est un titre de poème de Victor Hugo et qui sert de titre à cet excellent film de Xavier Giannoli. Nastia Golubeva et Jean Dujardin sont nos invités. Le film sort demain au cinéma. Ça, c'est la musique du film. Et la musique que vous écoutiez en 2012, Nastia Golubeva, c'était Jeanne Moreau.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Non mais... Comme il était très musicien.
Cette chanson, parce que je me souviens plus.
Très bien, c'est pas grave. En tout cas,
peu importe.
2012, c'est la première fois que vous apparaissez au cinéma.
Je m'en souviens plus.
Non plus ? C'est vrai ? Aucun souvenir ?
D'accord. Sinon, ça va.
La mémoire qui flanche.
Vous avez vraiment la mémoire qui flanche. Le film a été présenté à Cannes. Vous avez été à Cannes. Vous avez même pas un souvenir du festival.
Non.
Très bien. Bon, ça tombe bien puisque cette séquence est consacrée aux souvenirs. Jean Dujardin, vous écoutiez.
Souvenir. Qui est revenu ce matin.
Adèle, Skyfall.
Je tournais avec Gilles, Les Infidèles, et on écoutait ça, ce truc-là, tout le temps. Bon, voilà, c'est revenu.
Très bien.
Oui.
Dans cette période, c'est la période que l'on qualifie d'américaine, souvent. Le clin d'œil a été fait tout à l'heure sur The Artist pour différentes raisons. Et ce putain que vous avez dit en prenant la statuette, il est venu tellement du fond du ventre que personne ne vous l'a reproché finalement. Alors que
c'est ce que j'ai dit là-bas. J'ai un putain en France, c'est une virgule, hein, c'est pas non plus, c'est pas une grossièreté. Non, c'était un putain de putain, je rentre. Putain, putain, je rentre. Mais vraiment, hein, ouais. Je rentre quoi. Je reste pas là-bas quoi. Je suis jamais retourné là-bas. Je préfère leur dire parce que...
C'est fou, ça.
Oui. Non, c'est pas fou du tout. Hein. Non. À mon endroit, c'est pas fou du tout. 6 mois après une campagne, j'ai adoré, je garde le meilleur, mais...
C'était trop ?
Non, mais c'est pas chez moi, en fait. Moi, j'ai une famille ici, j'ai un boulot ici, j'adore ce pays, j'ai des très beaux rôles ici.
Oui, mais enfin...
C'était très cohérent.
Vous pourriez partir en vacances aux États-Unis, parce que vous dites, je n'y retourne
pas
pour travailler, mais est-ce que vous pourriez...
Bien sûr, je peux y retourner.
D'accord, ok, c'est pas...
J'ai des liens encore, il y a des liens, j'ai encore, bien sûr.
Des potes, ouais.
J'ai des potes, mais bien sûr, j'adorerais. Non, j'adore...
C'est pas de l'anti-américanisme.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, là c'était la campagne, c'est pas pareil.
C'est une vraie campagne électorale.
C'est une campagne électorale, c'est que vous êtes le représentant de vous-même, mais ça devient à un moment insupportable parce que vous savez plus ce que vous devez dire, faire, et ça devient absurde.
Il y a des coachs qui vous disent justement quoi dire, quoi faire. Quand on voit ce qui est passé pour Timothée Chalamet qui s'est fait apparemment détruire aux Oscars.
Effectivement, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et l'histoire nous le dit, même sur certains acteurs français. Il faut faire très attention. Donc je savais qu'il y avait des gens pour me pincer les coudes en soirée pour me dire attention, personnage influent. Journaliste influent.
Vous avez vu comme il articule bien Jean Dujardin quand même.
Ah bah,
c'était les coudes. En 2021.
Oui. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus.
Alors on pouvait passer également comme titre pour vous. Ça c'est la BO d'Annette. En avez-vous un souvenir ou pas, Nastia? Vous avez le droit de dire non, hein, vous savez.
Non, je me souviens des musiciens. Ils s'apprêtaient à jouer, les Sparks, et je me souviens de ça, c'était impressionnant.
Vous aviez quel âge, pardon, en 2022?
C'était il y a 4 ans.
Ah oui, même ça, vous vous souvenez pas?
J'avais 17.
D'accord.
16.
Donc on a un peu plus quand même de souvenirs et de ressentis quand on a une quinzaine d'années.
Oui, mais c'est privé, ça.
Ok, trop bien. c'est un film réalisé par votre papa. Vous vous retrouvez à partager aussi une scène avec lui. Vous jouez là aussi le rôle d'un père et de sa fille. C'est particulier de se retrouver devant une caméra et d'échanger avec son propre père. De jouer.
Je ne jouais pas, j'apparais.
D'accord.
Et c'était cette scène-là où il y avait les musiciens.
Il y avait les Sparks.
J'étais très intimidée. Mais...
Très bien. Jean Dujardin, vous écoutiez.
Les Baxter.
Baxter, Exotic Movie. Et là, dans cette période-là, vous êtes dans Novembre de Cédric Gimenez, un policier qui, justement, on en parlait tout à l'heure, on évoquait de l'enquête et de la tuerie du Bataclan. Avec, y a des rôles dont on sort pas indemne.
Alors, c'est possible, mais on ne le sait pas forcément. Est-ce qu'il faudra aller faire un peu de psychanalyse après ? J'en sais rien. Mais moi, j'ai le sentiment, quand on a priori bien travaillé, quand on a tous transpiré, quand on s'est tous posé les bonnes questions, on a un sentiment d'avoir fait un... J'ai l'impression que je m'en sors plutôt pas mal. Mais je ne sais pas ce que je laisse et ce que j'emporte. Il y a forcément des choses qui doivent rester, mais pendant les tournages, oui, on est un peu, parfois on est un peu raide. Sur J'accuse, par exemple, j'étais un peu raide.
On a du mal à s'endormir.
Manger un peu comme un lieutenant-colonel, c'est pas très marrant, quoi.
On a du mal à s'endormir, on a du mal à passer à autre chose à la maison.
Non,
à...
on fait un truc, enfin moi je le fais de moins en moins, mais je fais un truc qui ne sert absolument à rien, c'est que je me refais la séquence de la journée.
Okay.
Elle est tournée, hein, donc c'est fini, on la retrouvera plus, quoi.
Et alors ça sert à quoi ?
À juste à me dire, est-ce que je suis bien passé au bon endroit ? Est-ce que je n'ai rien loupé ? Mais ça sert à rien, c'est sûrement un truc pour c'est un truc d'angoissé, je pense, en fait.
Mais c'est vous qui arrivez à votre niveau, vous continuez de douter de votre travail.
Ouais, évidemment, Nagui, jusqu'à notre mort.
On peut en douter avant de le faire, mais une fois que c'est fait.
Non, je doute. Alors c'est ça qui est
drôle. On
peut
avoir un lâcher prise.
C'est ce qu'on s'est dit avec Giannoli sur ce film-là. On s'est dit, c'est drôle, on a peur après, on n'a pas peur avant. Si on a peur avant, on le fait jamais.
Okay.
Donc j'ai
c'est
rarement...
comme une cascade, quoi, c'est ça.
Oui, j'ai rarement peur avant. C'est après, je me dis, qu'est-ce que je viens de faire. Bon.
C'est comme on peut être rattrapé par l'histoire, et c'est là que ça peut être pesant. Ouais. On s'en rend pas compte avant.
Non, on s'en rend pas compte. Ouais.
Les exactement. Rayons et les ombres sort au cinéma demain. Film réalisé par Xavier Giannoli. Histoire vraie de Jean et Corinne Luchère. Renaud Metz nous a rejoint. Bonjour, Renaud. Vous êtes historien et votre dernier livre, Égo ou libre, histoire de la démocratie française, aux éditions Talendier, a été publié. Jean Luchère et Corinne Luchère, ce sont des parcours symboliques qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé pendant cette période de collaboration.
Ils sont symboliques de quelque chose, d'une partie de la collaboration, qu'il ne faudrait pas prendre la partie pour le tout. Ils font partie de cette gauche qui était a priori pacifiste, mais aussi antifasciste. Une bonne partie de cette gauche s'est engagée précocement contre le régime nazi et a cherché plutôt à le combattre. Et il y a eu une espèce de chassé-croisé, parce que pendant ce temps-là, l'extrême droite, l'Action française, vous voyez, Maurras, qui était très nationaliste, très anti-allemande, ouais, était plutôt belliqueuse, belliciste, voulait qu'on fasse payer les Allemands. Et progressivement, à partir des accords de Munich, en gros, 38, Maurras dit, mais non, en fait, il faut pas faire cette guerre. Ce serait une guerre offensive, cette guerre n'est pas la nôtre, elle serait le fait des Juifs. En fait, ce serait une guerre pour les autres, pour les Juifs, qui sont pas vraiment français, pour les Anglais, que ça arrangerait, parce qu'on serait leurs mercenaires. Et puis, une bonne partie de la gauche pacifiste, par antifascisme, s'est convertie à la réalité de faire la guerre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une partie, et donc c'est très intéressant de le raconter, de la gauche antifasciste qui préfère finalement la paix à l'antifascisme. Et Luchère incarne parfaitement ça, peut-être parce que sa colonne vertébrale idéologique est un peu moins solide que sa sensibilité, on va dire, son goût des femmes, de l'argent, de son habitude d'avoir de l'argent facile. C'est aussi les paradoxes que raconte bien le début du film. On voit le portrait de Briand un moment, on devine, même si elle n'est pas citée, je pense, Louise Weiss, qui est une grande européiste, c'est-à-dire qui fait partie d'un mouvement qui est, comme on disait tout à l'heure, Jean Dujardin disait tout à l'heure, un peu bien pensant, c'est-à-dire c'est une gauche qui est subventionnée par le Quai d'Orsay, par le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il faut se réconcilier avec l'Allemagne.
Non mais déjà, il faut trouver de l'argent pour travailler, pour publier.
Oui, alors la presse est plus ou moins subventionnée, mais c'est vrai que ça fait partie d'une habitude qu'a Luchère.
Il y avait vraiment un mouvement du plus jamais ça, que moi j'ai beaucoup entendu le plus jamais ça sur le touche pas à mon pote, sur Malik Houssekin, sur des actes racistes
qu'on aimerait vraiment définitif, ou le no pasaran, et puis ça se passe pas, c'est malheureusement ça. Toujours
il,
exactement
il y a eu ce mouvement pacifiste de l'entre-deux-guerres,
bien sûr, c'est massif, c'est transpartisan. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un pacifisme de droite, d'extrême droite, de gauche, d'ailleurs dans le premier gouvernement de Laval, qu'on ne voit jamais d'ailleurs, hein, c'est que dans le film il est toujours présent, et là tout début de l'entrée en politique dans la collaboration de Luchère, c'est cette mission officieuse que lui confie Laval, et c'est très bien raconté par le film. C'est un gouvernement qui est quand même plutôt composé de pacifistes de toutes tendances, plutôt d'extrême droite et de droite, on va dire, mais il y a aussi un René Belin, qui est un ancien de la CGT et qui effectivement fait partie de cette génération. Il faut dire qu'un électeur sur deux, au moins en France, à ce moment-là, il y a un ancien combattant. Donc c'est une génération entière qui ne veut plus faire la guerre.
C'est un sujet tabou, ce passage à la collaboration, certains sont passés entre les gouttes parce qu'il y a eu une épuration dont a été victime
Jean Luchère. Il ne faut pas divulguer le film, mais c'est sûr qu'il y a une injustice, une forme de roulette russe au moment de l'épuration. Ouais. Oui, non, mais l'épuration, effectivement, Jean Luchère, comment il s'en tire, on ne va pas le dire pour ne pas gâcher le plaisir des spectateurs, mais Il y a une forme de roulette russe, selon que vous êtes jugé tout début ou pas. Il y a des gens qui ont fait une collaboration beaucoup plus virulente, beaucoup plus objectivement antisémite, comme Rebattet, qui va passer à travers les mailles du filet, non pas de la justice, mais de la peine capitale, par exemple. Et puis, il y a des hommes politiques qui vont très bien se recycler. Hein. On pourrait citer des noms ou pas le faire, mais enfin, s'il y en a, on peut le faire.
Ça vous démange, ça vous démange, ça vous démange.
Non, ça ne démange pas forcément, parce que, alors là, je ne suis pas du tout dans l'idée de... D'ailleurs, il y a aussi... C'est intéressant, on pourrait faire toute une psychanalyse collective sur les fils d'eux, les enfants d'eux. Il y a eu beaucoup d'enfants de collabos qui, parfois, ont été très radicaux dans leur engagement en faveur de la démocratie libérale, et d'autres qui, au contraire, flirté avec des mouvements d'extrême droite, et parfois au sein des mêmes familles, d'ailleurs, c'est assez fascinant.
Vous êtes historien, on tire toujours des leçons de l'histoire ?
C'est ce que disait Marc Bloch, non, qu'on va bientôt honorer. Il y a en tout cas pas de compréhension du présent sans compréhension du passé. Et du coup, il faudrait retirer quelles leçons ? Ah bah écoutez, le film, à cet égard, est presque militant. En tout cas, il dit que le pacifisme, à n'importe quel prix, ce n'est pas une solution. Et qu'on ne peut pas s'entendre avec des adversaires, surtout si on va au-devant de leur demande. Ce que raconte bien le film, c'est que le premier gouvernement de Vichy va prendre des lois pour faire plaisir à l'occupant avant même qu'elle soit demandée, notamment sur le statut des Juifs.
En gros, ça veut dire que vous avez aimé le film ?
Alors, il y a plein de degrés.
Vous êtes totalement libre de dire ce que vous voulez.
Déjà, je peux dire devant les interprètes que j'ai adoré l'interprétation, mais ça, ils s'en fichent. Mais c'est important, parce que ce sont des personnages extrêmement complexes et nuancés. Je pense que le film a... très bien, il a d'excellents conseillers historiques, hein, on le voit au générique, il y a effectivement Sadek Meleta, le biographe de Luchère, il y a la biographe Barbara Lamboer d'Otto Abetz, qui sont quand même les deux personnages effectivement un peu gémellaires du film, ouais. Et c'est un film évidemment que les Français devraient aller voir par goût, mais aussi par sens de l'histoire.
Parfait. Renaud Mels, historien, donc il signe Ego ou Libre, l'histoire de la démocratie française aux éditions Talendé. Merci beaucoup d'être venu apporter votre éclairage. Voici Emma Beaujean.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à la séduction. Alors la séduction, qu'est-ce que c'est ? Ah, pardon Bruno, j'ai fait tomber un petit bout de ma chronique par terre. Excuse-moi, vous me dites quand c'est à moi de faire les blagues et tout. Pourquoi tu me regardes depuis 20 secondes ? Tu veux me baiser ou quoi ? Vous me dites hein, quand c'est moi. Et toi t'as un petit truc derrière l'oreille, c'est un brosse horaire, hein, c'est qu'un joli ménois, baise-moi. Ok, donc ma chronique a commencé, pardon. Alors la séduction, ça va peut-être vous surprendre, mais je ne sais pas draguer. Non, vraiment, je suis nulle. Moi, je mise tout sur l'humour et c'est compliqué puisque j'attire des mecs en les faisant marrer, voilà. Et souvent, ils regrettent après quand je leur pète dessus pendant les prélis. Donc, oh non, c'est terrible, c'est très compliqué. Moi, j'avais une copine qui draguait trop bien. Elle avait un regard super mystérieux, plein de charme, les yeux plissés, qui se mord les lèvres. Moi, je rappelle que je me suis mordu les lèvres en plissant les yeux. C'était pour séduire le pharmacien et il m'a donné de l'imodium. Voilà. Il m'a même filé le générique parce qu'il m'a pris pour une clocharde. Mais quand j'ai du coup avec le temps, j'ai développé quelques skills en drague. Par exemple, je vous les donne, plaisir d'offrir, je veux recevoir. Il faut pas parler de son ex quand on drague un mec, voilà. Enfin, surtout si t'es en train de draguer l'ex en question. Que tu t'es mis pour 120 balles de coiffure, 50 euros de maquillage pour pas qu'il te reconnaisse, que tu trouves un faux nom qui te va trop bien et tout, mais tout ça pour te faire griller au moment de la levrette parce qu'en fait tu t'es fait tatouer le nom Gabriel en bas du dos. J'ai pas craché, Gabriel. Et j'ai aussi expérimenté les applications de rencontres. Bah, c'est terrible en fait. On dirait l'appli Leclerc Drive, mais avec des ingénieurs qui ont visité le Chili à la place du jambon et des blancs d'Inde. C'est une catastrophe. À un moment, je voyais tellement de mecs rencontrés sur des applis que je les draguais de la même manière. Mais non, t'es développeur web. Excellent. Mince, j'ai fait tomber ma chronique sur mon string. Et de toute façon, les mecs qui sont sur les applis, même ceux qui ont juste envie de se caser, bah, si tu leur proposes un plan juste pour la nuit, ils vont pas te dire non. Au pire, ils vont te dire non, mais Emma, le problème, c'est qu'on travaille tous les deux à la radio, qu'on se voit tous les jours. Et si Nagui l'apprend, on sera privé de diamants. Alors, c'est quoi la solution, hein ? Comment on fait, Tanguy ? C'est juste d'être soi-même. Moi, j'ai découvert ça assez tard. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai rencontré mon mec, je lui ai fait la totale. Oh non, j'ai fait tomber mon string sur ma chronique. Attends, t'aimes la musique, t'aimes les filles marrantes ? Bah attends, c'est quoi ? Un fa bémol ? tu me dis, c'est toi le zikos. Excusez-moi, c'est une catastrophe. Et la première fois, mon premier souvenir de drague, c'est quand j'avais dragué un garçon, j'avais 6 ans. Je lui ai dit, on peut jouer au papa et à la maman ? Il a dit, d'accord, mais tu joues le notaire pour le divorce. Et je lui ai dit, ok. Et ça l'a fait rire, aller savoir comment il est tombé fou amoureux, ce fou. Moi, je crois que pour séduire les autres, en fait, c'est juste pour se plaire à soi. Et je pense un petit peu intimement qu'on a gagné quand on essaye plus de se plaire, mais de s'aimer. Ce qui est bon dans la séduction, en fait, c'est l'avant, c'est le possible, c'est l'infinité de caresses envisageables. C'est imaginer comment t'étais enfant et comment seront les nôtres, ça c'est beau. Mais savoir comment tu ronfles et pourquoi tu veux pas ressembler à ton père, ça me bouleverse bien plus. C'est plutôt à ça que je rends hommage. Merci, Maverick. Bravo.
Emma Beaujean.
Emma Beaujean.
Théâtre Olympique, c'est quand, Nagui? C'est ce soir.
Mais non.
Si. C'est ce soir.
Heureusement qu'on te tient au courant.
Ah oui.
Et c'est demain au cinéma le film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres. Ce film avec dans sa distribution nos invités Nastia Golubeta, Jean Dujardin, Auguste Dill, je vais y arriver, André Marcon, Vincent Colombe, Anna Prochniak, Olivier Chantreau, Lucie Vignol, Chloé Astor. J'essaie de citer le plus possible d'actrices et d'acteurs parce que vraiment, ouais. Il y a du monde, ça joue bien. C'est extrêmement impressionnant. La musique est signée Guillaume Roussel aussi. Je ne l'avais pas fait citer tout à l'heure en écoutant la musique. C'est la originale, oui, avec Emma Beaujean, Rebecca Balestra, Bruno Pupi, Rajola, Olivier Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Péki.
Et nos invités, Nastia Golubeva, Jean Dujardin. Oui.
La bande originale. Ouais. Avec Nagui.
Et Leïla, que l'on embrasse fort, qui se repose et que l'on retrouvera très
vite.
On finit à l'heure. non, blague à part. Les rayons et les ombres, donc, film qui a été tourné récemment. En plus, j'ai lu dans le dossier de presse que vous avez tourné ça en 2025. Généralement, on entend parler de... Il y a eu un an, il y a eu des mois de montage et de mixage et d'étalonnage et ainsi de suite. Là, c'est en flux tendu. J'ai l'impression que ça a été... Malgré les 7 ans de réflexion.
Recherche et un an pour tout faire, effectivement.
La puissance du journalisme et son honnêteté, la fascination, peut-être un peu pour l'argent facile aussi. Parce qu'au début, on a l'impression qu'il cherche ce Jean Lucernaire... Lucher.
Pas mal.
Très beau théâtre aussi. Il cherche de l'argent pour exprimer la démocratie, la liberté, la paix, l'entente cordiale franco-allemande, pour payer les journalistes autour de lui. Et puis on se rend compte que non, il est en train de se préparer un petit magot, quoi.
Oui, oui, effectivement. Et Otto Abetz avec lui.
Et ça, sa fille ne le sait pas. Dans vos recherches, Nastia, ce que vous avez vu ou lu de Corinne Lucherne, elle ne savait pas grand-chose de son père, si ce n'est le regard d'une fille pour son papa. Mais la phrase revient souvent d'ailleurs dans le film. Qui sait quoi? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez à Paris de ce qui se passe dans les camps en Allemagne? Qu'est-ce que vous savez dans la famille de ce qui se passe dans la tête de votre papa?
Son père l'a toujours éduqué depuis le début à ne pas lire les journaux. Parce qu'il lui a dit, ma fille, les journaux, c'est rempli de mensonges.
Lui qui est journaliste?
Oui.
Il en savait quelque chose.
Et elle a vu beaucoup de réunions à la maison entre journalistes, tout ça. Donc il lui a dit, tu peux m'écouter moi. Et elle l'a toujours vu être humain, généreux, avec elle et avec les autres.
Donc c'était son repère, son
mauvais
genou.
Ah oui, mais c'était son socle et c'est pas... Enfin, c'est une faute du côté du père d'avoir enlevé ce pouvoir à sa fille d'avoir un vrai point de vue sur les choses.
L'amour paternel, l'amour de la fille aussi pour son papa, parce qu'elle le regarde comme une... c'est elle la star, mais elle le regarde lui comme une vedette. Hein. Elle l'admire, au début en tout cas.
Oui. Il y a cette phrase « Peut-être que j'avais envie qu'il me regarde, moi aussi, quand elle devient une actrice. »
Oui, parce qu'il fait tout aussi pour la promouvoir, il la présente, il veut.
C'est une fierté, ouais.
Ouais, c'est ça, il veut être sur le.
Jusqu'à ce qu'il s'en serve.
Il veut être sur le tapis rouge avec elle, quoi. Il veut être sur le photocall, hein.
Pas tant que ça. Quand il y a le photocall, après, il la laisse aller toute seule.
Oui, oui, non, mais quand je. L'image du. Pour moi, tu as raison sur la scène du photocall. Ouais, l'image pour moi, c'était qu'il s'en sert aussi avec ce carnet d'adresses dont il a besoin à l'ambassade quand il fait des réunions. Il lui demande d'ailleurs d'amener des actrices et des acteurs dans ce cocktail où il finit par mouiller dans une espèce de collaboration les autres. Il y a un clash avec Céline. On a des Sacha Guitry aussi qui sont nommés. Tout n'est pas très clair parce que c'est pas parce que les gens étaient là qu'ils étaient forcément collabos, mais en même temps, aller dans une ambassade et boire du champagne avec des nazis, ça en dit long quand même sur le.
Oui, mais c'est ce que
leur combat.
Le film veut parler de ça aussi, de nos choix, de nos aveuglements et de ses conséquences, effectivement.
Et même d'aller chercher des laissés-passer pour libérer quelques familles, ça ne rachète pas la collaboration de rafles de milliers de juifs et d'enfants qui sont déportés. Et pourtant, lui, il se rachète un
D'ailleurs, c'est le réquisitoire à la fin.
Oui. Qui est formidable.
Qui est formidable.
Ouais.
Qui est joué par Philippe Torreton, qui est absolument inouï. Et qui est pour le coup, et c'est rien d'équivoque là. Pour le...
Philippe Torreton, que je n'ai pas cité, pardon, dans les listes des acteurs, ni François de Brouwer, pardon, mais ils font partie de ce casting absolument dingue. 3 heures de film et surtout des dizaines, des centaines d'actrices, d'acteurs, parce que même les figurants, j'ai envie de dire, c'est un travail de dingue. Il y a des tableaux comme ça, il y a des scènes aussi où il y a énormément de personnages joués, et cette réalisation, cette intelligence de Xavier Giannoni de ramener tout ça à une dimension humaine, à des valeurs humaines. On peut s'interroger, et moi le premier, évidemment, qu'est-ce qu'on aurait fait? De quel côté on aurait été? Quel comportement on aurait? Est-ce que c'est celui de sauver la nation, d'être un héros, ou au contraire de sauver sa peau en se disant bah, je vais d'abord m'occuper de ma famille, de mes proches, de ma pomme, et tant pis pour les autres, j'ai pas le temps, j'ai pas la force, je sais pas comment faire. Toutes ces questions ont dû traverser l'esprit de ces personnes.
On se dit qu'est-ce qui n'a pas été dit, et tout ce qui n'est pas dit, généralement pourri, donc c'est plutôt pas mal qu'un film nous aide aussi à se regarder.
Il y a énormément de non-dits aussi de la part de votre personnage, mais tellement, dans le film.
Mais tellement. Et pourtant, on comprend ce qui se passe dans la tête. Quoi. Il n'est pas toujours fier des situations dans lesquelles il est.
Mais c'est le chemin qu'on fait avec Xavier. En fait, on a oublié une chose, c'est que c'est le metteur en scène qui raconte le film. Hein. Ouais. C'est pas un acteur on peut pas avoir cette responsabilité-là. Nous, on doit travailler dans des variations, dans des émotions et dans des regards. C'est ce que voulait Xavier.
Et quand vous donnez une intention, vous la demandez au réalisateur, vous dites, est-ce que tu es d'accord pour que là, par exemple, je n'applaudisse pas à la fin du discours du nazi? Est-ce que tu es d'accord pour que je sois un peu en retrait dans la foule?
Bien sûr, bien sûr, on demande ça, on demande des précisions, mais même au moment les pires, d'ailleurs, au moment des exécutions, effectivement, on se dit comment on est, qu'est-ce que ça doit être, est-ce que je suis encore dans la, je suis dans la peur, évidemment, dans la dignité, un peu. Et puis on essaye, c'est une fois de plus, essayons des choses, on n'en sait rien. Tant qu'il n'est pas monté, il n'existe pas le film, on peut tout se permettre.
Et ben là, il sort demain, il est monté, il est réussi, c'est une œuvre à voir absolument intelligente, Les Rayons et les Ombres. On en parle jusqu'à midi et demi, voici Tanguy Passion.
Allez, bravo. Allez. Moi, je suis humain, donc voir le désespoir des gens, ça me fait mal. Christian Estrosi à Nice, je l'ai vu à la télé hier, il faisait appel à un front républicain contre Éric Ciotti avec le PS et LFI. Il était à deux doigts de partir en flottis. Estrosi, hier, il a déclaré « La diversité est une richesse ». Estrosi. J'ai cru que BFM s'était fait pirater pendant 6 jours, il va être plus à gauche que Marine Tondelier. Mais j'étais gêné pour lui. Je me suis douché 3 fois après l'avoir vu. Parce que bon, c'est pas grave de perdre une mairie. La déco souvent est nulle. Un grand hall, un bus de Marianne, un portrait d'Emmanuel Macron. C'est pas cosy. Hein, chez Zara Home, ça ressemble plus à l'appartement de ta tante qu'à une mairie. Ce qui est dur pour Estrosi, c'est de se faire battre par Éric Ciotti, quelqu'un qu'il n'aime pas. C'est comme si Nagui, la direction, venait vous voir pour vous dire la bande originale, ça continue la saison prochaine. Par contre, on va prendre Jeanne Masse. Yes, Jeanne Masse. Ah bah, pardon, je suis resté fan. Forever Jeanne depuis 86.
C'est ça.
Je sais qu'entre les deux tours, c'est le moment des alliances, mais on est toujours déçus parce qu'il y a les grands principes. Au PS, ils disaient pas d'alliance avec LFI, se pincer le nez. C'était beau à voir. Olivier Faure, j'ai presque trouvé qu'il avait de la prestance. Je me suis dit, il va finir président, ou bon, ministre, ou bon, conseiller municipal, ou bon, trésorier d'une association. Mais la réalité, c'est qu'ils ont tous besoin d'LFI pour y arriver localement. Et certains, pas tous, qui criaient, oui, Mélenchon, il plaisante avec les non-juifs, c'est atroce. Je meurs. Là, ils y vont. Ligne directrice versus réalité. À Toulouse, ville de gauche, Toulouse, et étudiante. Je m'y suis promené une nuit, j'ai jamais vu autant de gens piercés boire des 8-6. J'ai cru que j'étais à Rennes. J'ai demandé une crème complète et un Brescola. Et ben, le LFI François Piquemal, le mec qu'on n'a pas envie de croiser à l'hôpital pour une intraveineuse, s'est associé au journaliste, au socialiste François Briançon. Ce qui a provoqué le départ de plusieurs colistiers de Briançon, parce que personne n'est d'accord sur la marche à suivre. À Lyon, le maire écolo, Grégory Doucet, c'est allié à la candidate LFI. Et il peut passer parce qu'en face, il y a Jean-Michel Aulas, l'ex-patron du club de foot. Et que sur la liste des grands orateurs de France, il arrive dernier derrière Pim Pam, le tamanoir du zoo de Poitiers. Tout le monde a sa stratégie à Nantes. Le candidat LFI a appelé la maire sortante PS, Johanna Roland, à un front antifasciste. Donc on se dit, il y a des fascistes à Nantes. C'est grave, des fascistes. J'ai failli appeler des stars de Nantes pour monter un collectif. Sylvie Tellier, Jean-Marc Ayrault, le groupe Tragédie. Et en fait, les fascistes, c'est le candidat LR soutenu par Renaissance, Fouque Chombard de l'eau, qui a plus un nom à jouer dans un film sur les nobles un peu foufou avec Charlotte de Turckheim qu'à se balader dans les rues de Nantes avec une cagoule et un flambeau. Le problème des antifascistes, c'est qu'ils inventent des fascistes partout parce que personne n'a envie de se battre contre rien. Donc là, je vous ai parlé des alliances qui se font, mais parfois elles se font pas. À Marseille, Benoît Payan, PS, a écarté Sébastien Delogu, LFI. Il y va seul face au RN qui a fait 30%, parce que le Sud, c'est RN à fond. Et le Nord, pas mal aussi. Donc Nagui, j'ai regardé, vous allez devoir acheter dans le centre. Ah, voilà, j'ai regardé pour vous à Aubusson, dans la Creuse. J'ai mis un budget approximatif, mais vous pouvez acheter la ville. Hein. Et à Paris, Pierre-Yves Bournazel, le candidat d'Édouard Philippe, s'allie à Rachida Dati. J'ai lu qu'il s'était téléphoné, puis qu'il s'était vu. Voilà, la prochaine étape, je sais pas, ça va être de faire un spa ou un massage aux pierres chaudes. Et hier, je vous parlais du score de David Lisnard à Cannes, 81%. C'est tellement massif qu'il doit savoir qui n'a pas voté pour lui. Hein, les 14 personnes dans la commune qu'il regarde mal. Et ça doit être euphorisant. 81%. Moi, quand je fais une chronique ici, en studio, je sais que je convainc la moitié. Hein, ça dépend de quels chroniqueurs sont là. Donc, mon mal-être est normal. Ça vient de là, ces chocolats chauds aux Xanax pilés que je bois. Mais quand on a 81% des gens qui disent « on te veut », j'imagine qu'on se comporte pas pareil. Lisnard, il va se promener à Cannes torse nu, avec le logo Love Symbol sur le front. Même la démarche qu'on a, je suis sûr que c'est pas la même quand on a 81%. Non, je sais pas, on doit marcher en se dandinant un peu. Non. Lisnard, il a dû se poser se faire poser deux hanches en titane en plus des siennes. Alors qu'Estrosi, j'imagine qu'il rampe en pleurant, il dit j'adore le multiculturalisme devant des bars à chicha. Parce que sa stratégie, comme Ciotti a siphonné toute la droite et l'extrême droite, c'est d'aller chercher à gauche. Mais c'est Nice, enfin, il n'y a pas de gens de gauche. Quand on en trouve un, il est empaillé vivant et exposé dans le musée des anomalies. Et puis je vais finir cette page élection avec ça à propos de Ciotti. Vous avez vu cette histoire, Nagui? Nathalie Saint-Cric, ça a toujours été mon idole, vous savez. Mais dimanche, alors qu'on voyait Ciotti à l'image, elle a cru que son micro était fermé. Elle croit souvent ça. Hein, elle a cru. Voilà. Et donc, elle n'a pas compris le principe du micro, en fait. Elle a appelé Ciotti Benito. Or, Benito, de célèbre, il n'y en a qu'un. Hein. Bah, je vais chercher. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un rappeur, Benito, ou une marque de biscuits. Dis, maman, as-tu pensé à acheter des Benito? Non, il n'y a que Mussolini. Alors, physiquement, il y a un truc léger. Mussolini était chauve, Ciotti l'est. Bon, enfin, c'est tout. Donc, elle l'a comparé au dictateur italien, ce qui est sévère, parce qu'entre 1922 et 1945, l'estimation, c'est que Mussolini a fait 500 000 morts. Ciotti, au pire, a maltraité la syntaxe. Bon, après, il peut se révéler sur la fin. Donc, Nathalie Saint-Cric a été suspendue d'antenne par France 2 jusqu'à la fin des élections. Et c'est triste pour elle, parce que c'est son moment, c'est la seule qui vibre en regardant tomber les résultats d'Amiens et de la Bourboule. Donc à bientôt, madame.
Merci, Tanguy Bachelot. Et pour rajouter une petite information, on m'a dit que Dologus s'est retiré à Marseille. Voilà.
C'est bon, je peux y aller.
Trop précis. Oui, non, c'est tout.
Parce que Tanguy est sur scène, il continue sa tournée monumentale et le 28 mars, il sera à Ilkrisch Grafenstaden.
Oui.
Reparlons de ce film Les Rayons et les Ombres qui sort aujourd'hui au cinéma, une histoire vraie. Est-ce que quand on choisit de faire un film, c'est un choix aussi politique, c'est-à-dire on se rend compte aussi des valeurs portées par un film, qu'on joue un gentil, qu'on joue un salaud, et on se pose des questions sur la manière dont le public peut percevoir une œuvre d'art. Toute œuvre d'art peut être qualifiée d'ailleurs de politique ou d'humaine, mais est-ce que c'est le genre de questions que vous posez, Nastia Golubeva?
Évidemment. Mais moi, quand j'ai lu l'histoire, j'ai lu le scénario, et que j'ai rencontré Xavier, je me suis rendu compte de l'immensité de ce sujet, tellement d'éléments, tellement d'histoires, et mon personnage aussi est plus simple à vivre dans un sens que celui de Jean Luchaire, plus simple à appréhender. Donc il y a moins,
il est plus dans l'émotion, finalement, entre,
oui,
entre ses fréquentations, ses histoires d'amour, son lien familial, que politique. En fait, c'est plus une dimension humaine pour elle.
Elle, c'est surtout la naïveté.
Ouais.
Plus.
Ouais, l'amour qui rend aveugle aussi, parce qu'elle écoute ce que son père lui dit et elle lui fait confiance.
Ouais.
Jean, vous vous êtes posé la question d'aller ou pas sur un terrain qui était miné peut-être à la base, parce que...
Oui, je fais comme à chaque fois, je lis un scénario, je le lis comme un spectateur, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de le voir, ce film? Est-ce qu'il me parle, que ce soit même une comédie? Il y a des comédies qui ont des doubles fonds.
Bien sûr.
Et qui peuvent aussi vous raconter des choses.
Bien sûr.
Donc je regarde ça en...
Laissez-nous une seconde chance.
Oui, non mais OSS en fait partie.
OSS,
c'est vrai, OSS participe aussi à ça. Ouais. Mais et je le lis vraiment en spectateur, et ensuite j'essaie de trouver l'entrée. Là, effectivement, elle était plus compliquée. Mais il y a qu'une seule question à chaque fois qu'il faut que je me repose, c'est ne fais pas ce qu'on attend de toi. Sors de ta petite boutique, en fait. N'essaie pas tout le temps de refaire les mêmes films. Et que mon boulot, on a tendance à l'oublier parfois en France, mais mon boulot, c'est quand même aussi de me challenger et d'aller faire des personnages complexes, des personnages qui font mal.
Alors, est-ce qu'il faut
ça fait mal.
Est-ce qu'il faut les défendre, ces personnages? Est-ce qu'il faut les adopter?
Si on les défend, c'est que c'est mal écrit, c'est qu'il y a un problème. Là, une fois de plus, c'est que c'était tellement bien fait que j'avais pas besoin de caricaturer, d'accord, j'avais pas besoin d'être manichéen et d'en faire. On se dit pas c'est un salaud et je vais jouer le salaud, ça n'a aucun intérêt. Et c'est là qu'on voit le contre-emploi, c'est là qu'on voit la zone
surtout
d'ombre.
Surtout là où le film est intéressant, c'est que bien à la base, c'est pas un salaud, c'est un pacifiste qui.
Exactement, qui c'est la glissade, c'est le paradoxe qui est intéressant, c'est vraiment la glissade, c'est comment on y met de la lâcheté comme ça dans le quotidien, comment elle s'inocule tout doucement, en fait. C'est ça qui est intéressant. Faire un salaud pour un salaud, non.
Alors, le film sort demain, encore une fois, au cinéma. Il est réussi, Les Rayons et les Ombres. On va parler cinéma encore avec cette question. Avant-hier, Sean Penn a reçu le 3e Oscar de sa carrière. Je sais pas si vous avez suivi les Oscars ou pas. À la télé, vous avez regardé ou pas, Nastia? Pas du tout, Jean?
Non.
Non plus. Sean Penn n'était pas là. Il a reçu un Oscar, mais il n'était pas là. Il est brouillé avec l'Académie des Oscars depuis un certain temps, mais il avait quand même une très bonne raison. Savez-vous pourquoi il n'était pas présent aux Oscars?
Il était à Kiev, non?
Exactement, pour rencontrer
Zelensky.
Exactement. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Paraît-il une visite privée du comédien qui a toujours soutenu l'Ukraine, depuis l'invasion russe. Et il a co-réalisé le documentaire Superpower, tourné au début de la guerre. À part les artistes que vous pouvez rencontrer dans le métier, est-ce que vous avez déjà rencontré une personnalité qui vous a impressionné du monde du sport, de la musique, de la politique, que sais-je, Nastia? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un que...
Oui, plein.
Alors, quelle est la personne que vous admiriez le plus, que vous avez rencontré en disant « Waouh, j'ai eu la chance de serrer la main de... »
C'est pas vrai, c'est lui.
Telle ou telle personne, ouais.
Daniel, peut-être.
Ouais. Vous continuez d'être émerveillé par des rencontres et d'admirer des personnes. S'il y en a plein, il n'y en a pas un.
Voilà, je ou le dernier Jean, en date. Parce qu'il est à côté de moi. C'est la...
Et alors, vous aviez une image de Jean avant de le rencontrer différente de celle que vous avez aujourd'hui?
Bah évidemment, parce que je le connaissais pas. Mais
pourtant dans la vie il est très proche de ce qu'il peut faire laisser transparaître dans les interviews.
Enfin, c'est une partie de soi qu'on donne, mais ouais. Après il y a plein de...
Il y a l'odeur, hein. On parlera jamais assez de l'odeur de Jean. C'est vrai que
la radio ça vaut rien.
Il y a un moment où il y a l'odeur, ouais. Et vous, Jean, avez-vous déjà rencontré hors métier, hors cinéma, quelqu'un qui vous a impressionné?
Oui, pas forcément des gens connus d'ailleurs. Ça s'appelle l'aura, je suppose. Il y a une espèce de vibration chez des gens. Non, après moi, il y en a eu, mais ouais, j'ai déjà dit, mais c'est vrai, et elle revient souvent, parce que c'était peut-être la plus belle surprise qu'on m'ait faite, c'était la rencontre avec Belmondo chez Antoine Duléry. C'est un copain qui vous appelle et qui vous dit « Viens manger un soir », et vous ouvrez la porte et vous voyez Jean-Paul Belmondo, vous n'avez jamais rencontré. Sur un canapé.
Et qu'on s'y attend pas du tout.
Bon, qu'on s'y attend pas. Ouais. Et qui vous fait bonjour. Ça reste un peu. Que ça colle un peu.
Ouais. On redevient un môme. Ouais. Quels sont vos projets? Nastia Golubeva, votre agent va crouler sous les demandes et les scénars, à moins qu'il y en ait déjà beaucoup qui vous occupent.
L'accordéon, elle va faire. C'est très bien de l'accordéon.
C'est vrai, ajoute de l'accordéon. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent?
Je sais pas.
Professionnellement, de quoi avez-vous envie?
J'ai envie de travailler, j'ai envie de faire du théâtre, de la musique, de rencontrer des gens.
Vous voulez faire un disque? Vous avez un album déjà prévu?
Chaque chose en son temps.
Non, mais vous auriez envie de ça?
Ah oui, j'aimerais bien.
D'accord.
Ouais. Je suis pas inquiète pour elle, je pense qu'à partir de demain. Enfin, c'est demain que ça sort.
Ouais,
je pense qu'il va y avoir des
beaucoup, ça va être fou. Oui, ouais, ça va être fou. Ça va être sûr.
Pardon, notre étage de génie, hein, mais... mais c'est vrai que c'est assez dingue.
Les montagnes russes, c'est peut-être ce qu'elle va vivre au niveau émotionnel, mais c'est aussi le titre d'un film dans lequel vous jouez avec Julia Piaton, qui sera bientôt à l'affiche. Vous avez une date de sortie ou pas?
Non, pas encore. Non,
d'accord. Non. Vous avez présenté ce film comme étant un gros challenge, pourquoi?
Parce que c'est un sujet grave, on va traiter de la
bipolarité.
Ouais. Et c'est un sujet important et je vais essayer de le traverser. Je ne sais pas encore, je ne sais pas tout encore. Voilà.
Brise de Nice revient ou revient pas?
Dans une bonne centaine d'années, oui, bien sûr. Non, j'aimerais bien. Ah, pourquoi pas un jour? Franchement, je ne ferme rien, nulle part. Ni OSS, ni Brice, ni.
Et Brice pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Est-ce que c'est
vrai? Il y a un bras qui se lève déjà.
Reich de Reich. Ouais. Reich de Reich, quelle horreur. Rumeur ou info sur un hôtel que vous voulez monter?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, non. Non,
je n'irai jamais là-dedans.
Rumeur internet, ok.
Non, non, non.
Cabane à gaufres, si on a dit.
La seule chose, c'est sur le whisky aventure. Mais on peut pas en parler. Avec la loi E20, on peut rien dire.
Mais je développe. Mais c'est quoi le whisky aventure?
On développe avec des amis dans une distillerie à Bordeaux un whisky qui s'appelle Aventure.
Ok. Voilà. Avec modération, bien sûr.
Avec modération, évidemment. Et okay. quatre copains. Et voilà, on s'est lancé là-dedans. C'est un rye whisky bio.
Génial.
Français.
Ok. Très bien.
Et c'est assez passionnant à fabriquer. Je vous invite à aller voir des alambics. C'est étonnant quand on passe du grain à la bouteille. C'est génial.
Dans le courant de la semaine, on va recevoir demain François Damiens et Xavier Lacaille pour parler de Police Flash 80. Il y aura une histoire vraie, celle de Guillaume Musso. Jeudi, c'est son nouveau roman, et Lucky Luke qui revient. Je vous en parle parce que vous l'avez incarné,
ben oui,
Lucky Luke,
Alban.
Porté par Alban Lenoir. Ouais. Ouais. Vous êtes, ouais. Je sais que vous êtes potes tous les deux, mais
ouais.
Vous avez déjà jeté un œil sur la série qui sort que lundi?
Pas encore. Pas encore. J'aime beaucoup Albin.
Ouais. Ouais.
Bon, ouais, j'aime bien son trajet. Là, il a envie de.
Parfait.
Ouais.
Donc ça, c'est le programme de la semaine. Mais d'abord, des excuses à présenter pour aujourd'hui, Daniel.
Désolé déjà pour Francis Olympia, Sylvie Lacigale, Marion, Edouard Sept et Katia Lamichaudière. Bref, tous nos amis qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale et qui portent des noms de théâtre. Non, aujourd'hui pour Nagui, il n'y en avait que pour Jean-Luc Cerner. Désolé pour nos auditeurs férus d'histoire qui ont été étonnés, choqués, voire tambourinés par l'analyse de cette période délicate. À savoir, par Nagui surtout, je cite cette période pour lui, l'époque des partouzes. Alors voilà, c'est du Patrick Sébastien, mais c'est aussi du Nagui, mais pourquoi pas. Désolé enfin pour nos fidèles auditeurs qui ont été bouleversés par la qualité, la profondeur et la puissance du film de ce matin. C'est vrai, on n'a pas l'habitude. Après, voyons ce qu'on dira demain avec le film dont tu as parlé, Nagui, de Xavier Lacaille. Avec Xavier Lacaille, François Damiens, un film qui revient sur une période sombre de notre histoire vestimentaire, les années 80.
Merci mille fois Nastia Golubeva d'avoir été notre invitée. Jean Dujardin, on peut pas se quitter sans avoir une pensée pour Bruno Salomon. On s'est déjà exprimé, c'est la première fois qu'il ne nous fait pas rire. Bruno, on a tous été choqué, frappé et admiratif du combat. Et moi, je me souviens d'une interview que vous avez faite il y a plusieurs mois. On vous a demandé quelle est la personne que vous admirez le plus. Vous étiez au courant du combat de Bruno et vous avez dit Bruno Salomon et tout le monde était interrogé en disant mais pourquoi il dit Bruno Salomon comme étant la personne la plus dingue. Il s'est battu et toujours avec le smile, toujours avec le sourire jusqu'au bout.
Oui, il a été admirable jusqu'au bout. Ça a été, c'est mon grand coup de foudre.
C'est votre frangin, vous dites, hein, c'est mon frère. C'est un coup de foudre et qui est...
C'est un grand coup de foudre.
Il faut garder de lui ses
idées. Ouais. Quand j'ai vu ce mec sur scène, je vais essayer d'en parler parce que c'est difficile, mais quand je l'ai vu sur scène, j'ai vu la drôlerie de cet homme, la beauté de cet homme. Je me suis dit, c'est Marlon Brando avec la gueule de Jim Carrey. Une puissance de jeu inouïe. Et puis derrière, un très bel homme et une très belle âme, parce que très soucieux des autres, très curieux des autres, il vous... percé toujours à jour quand vous mangez avec lui à chaque fois, il essayait de savoir, il bousculait votre pudeur. C'était très important pour lui de qu'on se signifie, qu'on s'aime, qu'on se dise. Parfois il m'engueulait en me disant tu me dis jamais que tu m'aimes. J'y mais je suis pudique, je sais pas le dire. Et puis tu vois bien, on bosse ensemble depuis des années, mais tu sais que je t'aime. J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais et
merci. Et on pense à Bruno et on pense à tous.
Je suis très heureux de tous ces messages qu'on lui donne.
Ouais, il faut, ouais. Il faut. Et on continuera, parce qu'il y a une bande dessinée qui va sortir, qu'il a écrite sur son lit d'hôpital.
Oui, son cousin a fait les dessins.
Ouais, c'est génial.
Non, jusqu'au bout, il s'est jamais plaint, vous alliez le voir à l'hôpital, il vous parlait, il prenait des nouvelles.
Il continuait de faire des
vannes.
C'est
un combat de chien, ouais, c'est un combat.
Eh ben, on va continuer de récolter de l'argent contre le cancer, de se battre pour que, justement, plus jamais ça n'arrive aussi, perdre des gens bien. Et c'est la seule fois où il nous a pas fait rire, mais on a une énorme pensée pour lui. Merci mille fois.
Merci beaucoup.